des nouveautés faites au Québec, ici, on en a des tonnes de copies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bonjour. Donc, pour cette émission À ta santé, nous recevons Dr. Alexandre Mathieu, qui est résidente en santé publique et qui est aussi coprésidente des Jeunes médecins pour la santé publique. Dr. Mathieu est une jeune professionnelle déjà très engagée dans la communauté. Nous la recevons aujourd'hui pour aborder un sujet d'actualité qui lui tient à cœur, soit l'âgisme et l'isolement social. Donc, sans plus tarder, bonjour Dr. Mathieu.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Donc, le sujet aujourd'hui de ce podcast-ci, c'est l'âgisme. Donc, la première question, en fait, c'est pourquoi avoir choisi le sujet de l'âgisme et de l'isolement social?
Oui, bien, merci. En fait, la raison pourquoi j'ai décidé de venir parler de ce sujet-là, c'est parce que il y a plusieurs éléments. En fait, l'âgisme, je trouve qu'on en parle peu dans la société. Juste pour vous donner un petit exemple, vraiment pas très scientifique, mais j'ai fait une petite recherche sur Google pour voir le terme racisme, le terme sexisme et le terme âgisme, juste voir combien de résultats on obtenait sur Google. Puis on voit qu'il y a vraiment une différence. Là, on parle de 319 millions de résultats pour le terme racisme en anglais. Pour le terme sexisme en anglais, on parle de 38 millions de résultats. Puis pour l'âgisme, on parle de 10 millions. Donc, ça vous donne un peu un ordre d'idée de à quel point on peut parler de ces différents types de discrimination. Puis l'âgisme, c'est une discrimination qui est différente des autres, mais qui a des éléments qui peuvent se rapprocher aussi. Puis c'est vraiment important qu'on en parle. Dans toutes les strates d'âge. Puis je sais que ce podcast-ci est entre autres viré vers un public étudiant, donc c'est important qu'on en parle dans toutes les strates d'âge, tous les groupes d'âge, puis c'est un sujet qu'on mériterait à plus discuter. Puis aussi, bien sûr, là, avec la pandémie, il y a potentiellement eu des impacts plus grands sur l'isolement social des personnes aînées. Puis on peut voir que c'est possible que les attitudes d'âgisme qui se reflètent dans le discours public aient pu contribuer aussi à ça. Donc, je suis vraiment heureuse de venir vous en parler aujourd'hui.
C'est super. C'est vraiment... En fait, c'est vrai qu'on en entend pas beaucoup parler, donc ça fait du bien là, d'en apprendre davantage là-dessus aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est quoi en fait l'âgisme?
Bien... L'âgisme, on parle d'une discrimination qui est basée sur l'âge. Donc, le racisme, on parle plus qui est basé sur la race, la culture, ou le sexisme, on parle plus sur les sexes. Mais dans ce cas-ci, on parle vraiment de l'âge. Puis, chacun, on a des biais inconscients là, par rapport à l'âge, à différents éléments des gens. Peut-être je vous inviterai à faire un petit exercice. Donc, je vous inviterai à imaginer dans votre tête une personne de 70 ans, par exemple. Donc, lorsque vous pensez à cette personne-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font de leur journée? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qui est-ce qu'ils vont voir ou qui est-ce qu'ils vont rencontrer dans leur journée? Est-ce qu'ils ont une vie amoureuse ou une vie sexuelle? Est-ce qu'ils conduisent une voiture? Est-ce qu'ils voyagent? Est-ce qu'ils ont des responsabilités, un travail? Est-ce qu'ils utilisent Twitter ou Facebook? Donc, lorsque vous pensez à la personne de 70 ans dans votre tête, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à l'ex-président américain Donald Trump, qui a 74 ans, ou au nouveau président Joe Biden, qui a 78 ans. Je pense qu'en faisant cet exercice-là, on voit qu'on a peut-être tous, ou la plupart d'entre nous, des biais inconscients qui peuvent être liés à l'âge. Puis c'est important d'essayer de les identifier, puis d'essayer de les remarquer aussi. Chaque personne est différente, puis c'est la même chose pour les personnes âgées. Chaque personne va vieillir différemment. Et puis, c'est important de ne pas penser que c'est tous les stéréotypes courants, là, que les personnes âgées sont nulles en informatique, etc. Là. Donc, c'est important de combattre ces stéréotypes-là.
Et parfait. Puis ensuite, là, je me demandais là, comment est-ce que l'âgisme, ça peut se refléter dans la société. Là, justement, on parlait un petit peu de comment on imagine une personne, par exemple, de 70 ans. Donc, quel autre exemple de stéréotype on peut là, retrouver ou dire nous-mêmes de façon un peu là, inconsciente?
Bien, dans la société, c'est sûr qu'il y a plusieurs exemples. Je vous dirais... Je viens vous parler de ça en n'étant pas la meilleure personne pour parler, là, juste un petit disclaimer, comme on pourrait dire. Je ne suis pas une personne aînée moi-même. On considère une personne aînée là, dans les définitions actuelles comme quelqu'un de 65 ans et plus. Ce n'est pas mon cas, donc je ne voudrais pas non plus mettre des mots dans la bouche des personnes qui vivent réellement cette discrimination-là. Donc, je viens vous partager mon expérience, qu'est-ce que moi j'ai vu dans la société, puis aussi l'aspect là, de santé publique. Donc, je suis en santé publique et puis notre rôle c'est, par rapport à différentes populations, c'est d'essayer de comprendre la réalité des populations puis d'essayer d'améliorer leur santé. Donc, c'est vraiment l'angle sous lequel moi, je viens vous parler aujourd'hui de cet enjeu-là, mais c'est certain que les meilleures personnes pour en parler, là, ce serait vraiment les personnes qui vivent la discrimination basée sur l'âge. Mais je peux vous donner quelques exemples là, de moments où on voit ça dans la société. Par exemple, le langage. Certaines personnes peuvent parfois, puis c'est pas toujours avec des mauvaises intentions, mais peuvent utiliser un langage qui peut être un peu discriminatoire, du genre le petit monsieur ou la petite madame, en disant le mot « petit », ça diminue un peu cette personne-là. Puis ça peut venir renforcer là, les stéréotypes qui sont souvent reliés à l'âge, là, soit des stéréotypes de vulnérabilité ou de dépendance. D'autres exemples, puis on va le voir un petit peu plus tard aussi, là, je vais vous parler d'un autre sujet relié, mais par exemple, l'accessibilité. Donc, il y a en général, puis encore là, il faut faire attention là, de ne pas tomber dans la généralisation pour tout le monde et l'âgisme, mais les personnes aînées peuvent avoir plus d'incapacités physiques reliées à des maladies. Et puis, lorsque on voit des lieux publics qui ne sont pas accessibles, où on ne peut pas aller, par exemple, en chaise roulante ou pour des personnes qui ont des limitations de mouvement, de mobilité, pardon. Ce genre de choses-là, en fait, peut empêcher les gens qui ont des problèmes de mobilité, qui sont parfois, et même parfois plus souvent, des personnes âgées, de participer pleinement à la société, d'aller à la banque, d'aller dans les institutions publiques. Donc, ce type d'exemple-là de ne pas accommoder la société pour permettre aux personnes qui peuvent avoir plus d'incapacité ou qui vivent des réalités différentes comme les personnes aînées, lorsqu'on ne les accommode pas, donc ça, c'est une forme aussi d'âgisme.
C'est vrai. C'est vrai, c'est bien aussi de souligner là, toutes ces façons-là qu'on a un peu de brimer la participation de ces individus-là. Puis, considérant que le podcast est un petit peu axé sur la santé, donc est-ce que c'est possible aussi d'observer là, l'âgisme au travers du système de santé? Donc, est-ce qu'il y a des barrières justement aussi au niveau du système de santé là, pour les personnes âgées afin d'y accéder ou d'obtenir des soins adéquats?
Oui, effectivement. Bien, les mêmes barrières là, que je parlais là, en termes, par exemple, d'accessibilité à la mobilité, c'est sûr qu'on les voit aussi dans des cliniques. Donc, d'être incapable là, d'aller dans une clinique en fauteuil roulant, par exemple, ça peut être un enjeu. Mais de mes stages aussi en milieu, durant ma médecine, là, de mes stages cliniques, j'ai remarqué aussi des aspects là, qui peuvent faire que la santé des personnes aînées peut être affectée de manière différente là, des personnes plus jeunes. Donc, par exemple, il y a le stéréotype que les personnes aînées n'ont pas de vie sexuelle, ce qui est faux, en fait. Et puis, à cause de ce biais inconscient-là, il peut y avoir, par exemple, des médecins qui peuvent oublier de questionner la santé sexuelle de leurs patients plus aînés, et ce qui peut mener à des retards de diagnostic, des maladies manquées. Hein. Les personnes aînées peuvent aussi avoir des ITSS, donc si on oublie de questionner cette partie-là importante de la santé, ça peut lier à des impacts sur leur santé. Puis c'est un peu la même chose aussi avec d'autres stéréotypes. De dire à quelqu'un « Ah, c'est normal d'être essoufflé ou d'oublier des choses ou d'avoir mal à votre âge, tout ça c'est normal », mais c'est pas vrai en fait. C'est des diagnostics qui causent ces choses-là, puis on peut manquer des diagnostics, surtout plus précocement, lorsqu'on n'écoute pas vraiment les plaintes des personnes aînées en se disant que c'est juste relié à l'âge. Donc, il faut vraiment faire, en tant que professionnel de la santé, il faut vraiment faire les diagnostics différentiels sans avoir des biais reliés à l'âge. Puis, on peut voir ça aussi, par exemple, juste vous donner un dernier exemple, même si je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Lorsqu'on fait une discussion là, par rapport au niveau de soins, donc ça veut dire lorsqu'on demande par exemple à quelqu'un qui est malade de savoir si jamais ça se détériorait votre santé, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Voudriez-vous qu'on vous intube? Voudriez-vous qu'on fasse des soins plus invasifs? Et puis, parfois, il peut y avoir un stéréotype comme quoi plus la personne est âgée, moins elle a une bonne qualité de vie, ce qui est absolument faux. Et ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Puis, il ne faut pas avoir ces biais-là parce que ça peut nous affecter là, dans les discussions justement de qu'est-ce que la personne entrevoit là, pour les soins qu'elle veut recevoir.
Excellent. C'est vraiment des points, je crois que c'est important de les souligner, là, parce que, par exemple, les stéréotypes nommés, là, juste de dire que souvent, on va parler à une personne âgée puis lui dire « Ah, c'est normal d'avoir des douleurs, etc. » On finit par minimiser un petit peu le vécu de la personne, puis d'oublier, en fait, que l'âge, c'est seulement un chiffre, là, donc il ne faut pas oublier l'unicité de la personne, puis que chaque individu est unique. Il ne faut pas les mettre dans le même paquet, en fait.
Tout à fait. Puis justement, l'état d'une personne, comment elle fonctionne, sa qualité de vie, tout ça, c'est beaucoup plus relié à d'autres maladies qu'elle peut avoir. Les maladies qui, oui, peuvent venir avec l'âge, mais pas nécessairement. Donc, chaque personne est vraiment différente, vieillit différemment. Puis, on ne peut pas juste dire « c'est à cause de l'âge ». C'est plus souvent à cause de maladies chroniques ou des maladies autres qui affectent la personne.
OK. Excellent. Puis, j'ai une question un petit peu plus là, d'actualité. Là. Donc, en fait, est-ce qu'avec la pandémie actuelle, est-ce que ça a eu un effet quelconque là, sur l'âgisme?
Bien, c'est une question vraiment intéressante. Je pense que, encore là, les personnes aînées sont les mieux placées là, pour répondre à cette question-là, mais j'ai vu passer dans les médias certaines personnes aînées qui ont pris parole justement pour revendiquer un peu le discours ou le langage qui est utilisé là, les concernant suite à la pandémie. On a entendu beaucoup des phrases comme il faut protéger les aînés, qui un peu sous-entend qu'ils ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes, qu'on a besoin de les protéger, puis ça peut renforcer un peu le stéréotype là, que c'est des personnes vulnérables et dépendantes. On a aussi entendu là, des phrases comme « ils ont bâti notre société, donc on est redevable à eux », mais ça, ça sous-entend qu'ils ne contribuent plus à la société, donc ils sont seulement des personnes dépendantes maintenant, puis qu'ils n'ont plus rien à amener, ce qui est faux. En fait, les personnes aînées contribuent énormément à notre société. Puis, donc, de dire ça, ils ont bâti notre société au passé, ça renforçait l'idée qu'ils ne contribuent plus. Donc, il y a des discours comme ça là, qui ont été revendiqués par des personnes aînées. Puis, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent faire en sorte que... donc, ça, c'est, en fait, c'est un peu peut-être une réflexion de l'âgisme systémique qui est présent dans notre société, qui se reflète à travers le langage utilisé durant la pandémie. Mais il y a aussi pu avoir des impacts plus grands chez les aînés. Par exemple, là, si on parle d'isolement social, là, justement, qui est relié à l'âgisme, l'isolement social, c'est quand les personnes ont moins de relations significatives avec d'autres personnes, moins de relations qui sont gratifiantes avec autrui. Et puis, il y a pu avoir des impacts un peu plus grands chez les personnes aînées par rapport à l'isolement social que dans d'autres strates d'âge, par exemple. Puis ça peut être du cas que ça a beaucoup été médiatisé, là, que les personnes aînées doivent faire attention de se protéger de la COVID et tout ça. On sait aussi qu'il peut y avoir, puis encore là, c'est pas toutes les aînées, chaque personne est différente, mais il peut y avoir des différences là, intergénérationnelles en termes de d'aisance à utiliser les technologies, même si je connais quelqu'un qui est considéré comme une personne aînée qui est beaucoup meilleure que moi avec les technologies, donc c'est pas tout le monde, mais cette différence-là, quand on prend la moyenne des personnes aînées, ça peut avoir contribué au fait qu'ils n'ont pas pu se connecter par par Internet, comme des plus jeunes générations, comme vous et moi qui faisons l'entrevue via Zoom aujourd'hui. Donc, ça peut avoir fait en sorte que l'isolement était un petit peu plus difficile, là, pour un peu plus grand pour les personnes aînées.
D'accord. Puis d'ailleurs, là, en parlant d'isolement social, on avait dit que c'était vraiment un sujet qui était très... très lié, très ancré un petit peu à l'âgisme. Est-ce qu'il y a des facteurs précis qui peuvent augmenter ou diminuer l'isolement social? Par exemple, là, on a vraiment mis ça dans un exemple concret, là, la pandémie actuelle, mais de façon plus générale.
Oui, bien, l'isolement social, en fait, est beaucoup relié à l'âgisme. Donc, mais il y a d'autres facteurs aussi là, qui contribuent à l'isolement social. Dans le fond, il y a des facteurs qui sont du lien de la santé physique. Donc, on a parlé là, que les personnes plus aînées peuvent avoir plus de maladies chroniques qui peuvent ensuite amener des limitations, par exemple, de mobilité ou des limitations sensorielles, par exemple, la perte de l'audition. Et puis, des maladies comme ça qui peuvent faire que la personne... a plus de difficultés à interagir avec autrui. Puis avoir aussi des maladies comme l'incontinence urinaire qui fait que les personnes sont plus gênées de sortir de chez eux. Puis Donc, il y a des éléments là, liés à la santé physique aussi qui peuvent favoriser l'isolement social chez les personnes aînées. Il y a des éléments aussi en lien avec les transitions de vie. Donc, parfois, les personnes plus aînées vont prendre leur retraite. Donc, en se coupant du milieu du travail, ils perdent des liens potentiels là, significatifs avec leurs collègues de travail. Ils peuvent parfois perdre leur permis de conduire en vieillissant, ce qui leur permet moins de visiter, quoique là, en pandémie, c'est... on ne sort plus trop de chez nous, mettons.
Bon point.
Il y a la perte aussi de conjoints qui peut être très difficile là, pour les personnes plus aînées. Donc ça, c'est des éléments reliés à la transition de vie. Puis il y a aussi des éléments là, sociodémographiques, par exemple les minorités ethnoculturelles ou sexuelles, qui sont aussi des personnes aînées, peuvent avoir plus d'isolement social. Puis les personnes aussi qui sont plus âgées, par exemple de 80 ans ou plus, sont plus à risque d'isolement social aussi. Puis là, je parle vraiment juste des moyennes, là, ça c'est les chiffres, mais encore, je tiens à renforcer l'idée que vraiment chaque personne vieillit différemment. Puis quand on parle de moyenne, c'est pas la situation de tout le monde. Puis il y a d'autres barrières aussi là, qui sont plus liées à l'environnement, des barrières sur lesquelles, en tant que société, on peut vraiment agir pour essayer de diminuer l'isolement social chez les aînés. On parle par exemple de barrières physiques, là, comme j'ai dit là, plus tôt, là, des rampes d'accès, des choses comme ça. Le transport en commun est adapté aussi. Puis pour ce qui est de l'environnement social dans lequel on interagit tous, ben, c'est certain que c'est là que l'âgisme rentre en compte. Là. Quand on a une préconception que quelqu'un est dépendant puis qu'il ne contribue pas à la société, on ne lui laisse pas nécessairement l'opportunité de contribuer à la société et d'avoir des interactions gratifiantes là, avec d'autres personnes. J'ai parlé aussi là, dans l'environnement social, culturel, il y a les technologies, là, les différences d'aisance, encore là, pas tout le monde. Et puis, il y a aussi la culture de valorisation ou même, on pourrait dire peut-être, de survalorisation du travail. Puis la culture de productivité là, qui peut être plus difficile pour inclure des personnes âgées qui parfois voudraient peut-être travailler à temps partiel. Donc, c'est tous des éléments là, qui peuvent favoriser l'isolement social chez les aînés. Puis l'isolement social a vraiment des impacts sur la santé, là, que ce soit des impacts sur la santé mentale des aînés, sur leur santé cardiovasculaire aussi. Il y a un risque de mortalité qui est plus élevé chez les personnes qui sont isolées socialement. Puis pour la société, il y a vraiment des pertes. Là, on peut parler là, de pertes de l'expérience qui peut être transmise entre les générations lorsqu'il y a de l'isolement social là, des personnes aînées. Perte du capital social aussi, là, les personnes aînées font beaucoup de bénévolat, plus que les strates plus jeunes, en fait. Donc, on perd leur contribution en termes de bénévolat, leur contribution aussi en termes de travail. Il y a 9 % des personnes de 65 ans et plus qui travaillent. Donc, tout ça, là, c'est des éléments à considérer là, dans l'isolement social.
C'est très intéressant de voir un petit peu là, toutes les barrières, justement, à la participation sociale de ces personnes-là qui, on dirait parfois, on peut penser qu'ils sont inactifs et participent peu, mais au final, quand on prend le temps de regarder là, tout ce qui amène à la société, là, c'est des personnes qui participent, de ce que j'en comprends, assez de façon assez importante. Puis, je me demandais, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour diminuer l'âgisme dans la société, diminuer l'isolement social là, en tant qu'individu ou en tant que société même?
Mm-hmm. Bien, en tant qu'individu, c'est sûr que de juste parler de l'âgisme, de savoir que ça existe, puis de tenter de reconnaître aussi nos biais inconscients, déjà là, c'est une première étape. Puis ensuite de ça, lorsqu'on les reconnaît, c'est bien d'identifier puis de nommer ces biais-là. Puis ensuite de ça, ce qu'on peut faire en tant que société aussi, c'est justement là, de faciliter, d'améliorer l'accessibilité, par exemple, au lieu public, de permettre des accommodements au travail, des choses comme ça là, qui changent notre société, notre environnement, puis qui permettent aux personnes aînées de mieux s'intégrer, de mieux pouvoir participer en considérant les réalités de chacun, puis effectivement en s'adaptant là, pour les réalités de chaque personne individuellement.
Excellent. Puis, pour terminer, là, comment voyez-vous la place des aînés là, dans le futur, en fait?
Oui, bien, c'est une super question. En fait, la meilleure chose, c'est vraiment de poser cette question-là à une personne aînée, à des personnes aînées. Il faut qu'on les implique plus dans les décisions qui les concernent. Il faut qu'on aille chercher leur opinion, là, parce que... Justement, en les impliquant pas, ça renforce un peu l'idée que on n'a pas besoin de les impliquer, qu'ils sont dépendants, puis qu'on peut prendre les décisions pour eux. C'est totalement faux. Donc, il faut les impliquer dans
le processus décisionnel. Oups, pardon.
Oui, dans les processus décisionnels, à mouler le futur en ce qui les concerne. Puis moi, personnellement, j'aimerais voir une société là, qui leur permet, qui peut favoriser leur participation sociale, qui leur permet de s'intégrer. Puis je pense que vraiment, ça serait bénéfique pour tout le monde, pour les personnes aînées, bien évidemment. C'est vraiment ça qui est important, mais aussi pour la société plus largement, là, en termes de toutes les apports qu'ils peuvent amener, les contributions qui, oui, on peut les chiffrer en termes de combien de personnes travaillent, tout ça, mais il y a aussi tellement de contributions, par exemple, en tant que proche aidant, en tant qu'aidant dans les familles qui sont non chiffrables. Donc, vraiment, je pense qu'on en bénéficierait.
Effectivement, c'est vraiment de très bons points soulevés. J'espère qu'on pourra d'ailleurs favoriser la participation des aînés puis valoriser aussi celle-ci. Donc, c'est ce qui conclut en fait le podcast d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet si important. Puis, donc, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le Comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!